d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
C'est Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique. C'est émission AC 19-20 ce soir. Alors nous parlerons principalement des patrons en colère qui veulent faire baisser les charges patronales et salariales. Ils ne recoulent plus ces petits pigeons. Mais il faut dire que les pigeons en question, qu'ils plument finalement, ce sont les salariés et les chômeurs. Nous parlerons aussi de la compétitivité, une note de Michel Husson. Et également, pour commencer, dans le cadre d'un meeting sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, qui s'est déroulé le samedi 20 octobre à la Bourse du Travail de Saint-Denis, nous entendrons des témoignages des salariés de Monoprix, des gens qui aident à la personne et des gens qui travaillent aux Trois Suisses. Et une conclusion de Maya Sourdoute.
Et à toutes. Donc là, sont réunies un certain nombre de femmes qui, toutes ces dernières semaines, ont mené des bagarres importantes, des luttes difficiles, et qui sont donc venues en témoigner. Donc on va commencer par la grève de Monoprix qui a été déclenchée par les travailleuses. Je dis travailleuses parce qu'il y a des hommes aussi, mais il y avait un maximum de femmes, en juin dernier, le premier jour des soldes. Avec des revendications qui portaient sur les conditions de travail et qui surtout voulaient dénoncer les méthodes de harcèlement de la direction, qui est une femme. La directrice est une femme, hein, je précise. Donc il y avait une grève précédente en décembre 2011 qui s'était soldée en fait très rapidement par la signature d'un protocole d'accord, et ce protocole n'a pas été respecté, donc ça a été aussi un déclencheur de cette grève. En plus des conditions de travail qui ne s'amélioraient pas, le non-respect de la parole donnée par la direction a été un déclencheur important. Donc c'est une grève qui a été longue, qui a été dure, qui a duré 38 jours. Mais je vais passer la parole aux actrices de cette lutte, donc Sladja et Touzia, qui vont nous raconter leur grève.
On a commencé notre grève sans jamais penser qu'on va arriver à 38 jours de grève sans savoir où on est et est-ce qu'on va gagner à la fin. Nos conditions de travail, elles sont vraiment difficiles parce que chaque fois qu'on a les soldes ou on a quelque chose portant à monter dans le magasin, l'ascenseur, il tombe en panne. Et pour réparer, ils ont besoin au moins un mois, 15 jours, ils nous laissent l'ascenseur. Les gens sont vraiment fatigués de cette façon de travailler comme ça. Et en plus de ça, ça manque énormément de personnel. Il y a certains qui sont pas en arrêt maladie, certains qui sont en vacances. Et les autres qui travaillent, ils sont pas rompus, ils sont toujours là parce qu'il n'y a personne pour nous remplacer. Avec cette pénibilité, on a commencé à faire la grève. Et on a commencé et on a pensé que ça va améliorer quelques jours, cette chose ça va donner. Le premier jour, il n'y en avait pas changement. Deuxième, troisième jour, on a commencé de se poser question, mais qu'est-ce que ça arrive? Ils nous-mêmes ne considèrent pas, ils ne veulent pas changer, ils négocient rien, qu'est-ce que ça va arriver? À la fin, une semaine, ils ont voulu négocier avec nous revendications qui ont été tellement simples. Réparation de l'ascenseur, augmenter effectif dans le magasin, embaucher les gens en CDI, respect les personnels et planning en même temps, respect du personnel et planning, et avoir une vie normale dans le magasin comme tout le monde dans la société. Et ils ont négocié au moins du matin jusqu'à l'après-midi, le 21h du soir. Et après, ça ne donnait rien. C'était juste promesse. La direction envisage faire ça, 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 mais rien concret. Après, on a bloqué du magasin. On a resté 9 jours dormir dans le magasin. Totalement bloqué. Ils perdaient énormément d'argent, mais ils se foutaient de ça. Le plus important, c'était de résister. Mais nous, on a résisté grâce à les syndicats et les gens qui nous entouraient et qui nous encourageaient. Et je peux dire, je remercie à tout le monde qui était autour de nous, qui venait régulièrement de nous soutenir et de nous donner une aide nécessaire pour tenir et être ensemble avec nous. Parce que de ce 24h sur 24h, au départ, être sur place, et après, à 6h du matin jusqu'à 22h du soir, c'est pas évident de faire 38 jours la grève. Et finalement, on était presque désespérés. Considéré comme ça, surtout parce que les gens qui sont fait les grèves, ce sont les gens, les anciens, on va dire. Majorité des gens, il a minimum 10-15 ans de boîte. Et considéré comme ça, sans savoir où on va aller plus tard, encore plus tard, et comment ça va se passer, on ne savait plus quoi penser. Mais 38 jours, c'est vrai, c'était dur, mais ça donnait quelque chose. Parce que malgré tous les tribunaux, on était 2 fois convoqués au tribunal, surtout nos collègues, délégués syndicaux, délégués DP, tout le monde, ils ont été convoqués, ils ont été avec nous, et finalement tout était rangé à la fin. Et nous, on a réussi à faire ce qui est nécessaire.
Tu veux préciser ce que vous avez obtenu?
On a obtenu embauche en caisse, réparation de l'ascenseur immédiat. Remplacement de caissière entre 3 et 5 jours.
Après 3 ou 5 jours d'absence, remplacement du salarié absent, c'est ça? Oui.
Entre 3 et 5 jours, pas tout de suite. C'est pas évident maintenant embaucher quelqu'un, je sais pas comment. Mais c'est vrai que, on lutte toujours, malgré que la grève, elle est finie, c'est jamais fini, la directrice, elle est toujours là. Et on continue de se battre et de faire nécessaire.
Donc maintenant, on va parler de l'aide à domicile, des femmes de l'aide à domicile. C'est aussi un secteur où de métier invisible, métier qui demande énormément de compétences qui ne sont pas reconnues. Et donc on va donner la parole à Marie-Claude et Denise, qui viennent de Grenoble, de l'Isère, et qui travaillent pour une association qui s'appelle la DPA. C'est une des 14 associations du département qui sont financées par le Conseil général, qui ont subi des baisses, des restrictions budgétaires du fait que l'État n'a pas versé autant d'argent aux conseils généraux qu'avant, enfin l'État du temps de Sarkozy, et que les difficultés courantes ont été aggravées de ce fait-là. Et en janvier dernier est arrivée aussi une nouvelle convention collective de l'aide à domicile qui unifiait un peu toutes les conventions existantes, mais qui a été revue à la baisse, qui a unifié à la baisse. Donc en fait, pour leur secteur, ça a donné des baisses de certains avantages qu'elles avaient obtenus avant. et qui a déclenché leur colère. Donc elles vont vous parler déjà de leur métier, des compétences qui sont demandées et ensuite de leur mouvement de lutte.
Alors, c'est quoi le métier ? C'est un métier pas vraiment connu et pas du tout reconnu. Il y a quelques années, à la mise en place de l'accord de branche, les aides à domicile ont été classées par catégorie, allant de A à C. Les grilles A sont les aides à domicile, B employés à domicile et les C auxiliaires de vie sociale. Les C, c'est celles qui ont obtenu le diplôme. Alors, sachant que les catégories A, ce sont aussi des aides à domicile dites pas qualifiées. Ceci fait qu'elles restent pendant 11 ans au SMIG. Dans les faits, les salaires en catégorie A font tout. C'est de l'aide à la personne, des toilettes, des changes, des courses, des tâches administratives, des préparations de repas, donner les repas, donner les traitements, accompagner les personnes dans les sorties, les visites médicales, etc. Écouter, c'est une compétence car il faut être attentive aux éventuels appels au secours de la personne, mettre les pinilex du fait de la dérive du métier. En effet, des actes accomplis jusqu'à présent par le service de soins se font par des AD non qualifiés. Avons-nous aujourd'hui un rôle social ou sommes-nous en train de pallier à un manque de soignants dans notre pays ? La loi Borloo a permis aux entreprises à but lucratif de se monter. On ne peut lucratiser un secteur tel que celui-ci. De plus, les spots publicitaires au vu de promouvoir les fameux chèques, emploi, services montrent à quel point la version du métier est erronée. Ce sont de vrais métiers et pas seulement des jobs d'été. Le secteur du maintien à domicile ne doit pas répondre à une logique financière. On parle de social et de santé. On parle également d'êtres humains qui ont une dignité et qui méritent, au même titre que n'importe qui, de vieillir et de finir ses jours dignement. Ce n'est pas anodin car c'est une tâche qui, en réalité, a beaucoup d'importance. Pas seulement en termes d'hygiène. Ce ne sont pas des locaux de bureau ou des montées d'escaliers que nous nettoyons, ce sont des lieux de vie même de la personne. Nous accédons à leur intimité. Vous, accepteriez-vous que des étrangers rentrent chez vous et soient témoins de votre vie ? En plus, avec les nouveaux contrats de la convention collective, le gouvernement encourage le travail au noir. Ceci ne va pas arranger nos conditions de travail et notre future retraite.
Merci. Donc voilà une description rapide de vos conditions de travail. Denise, est-ce que tu vas nous parler de mouvements de grève que vous avez pu mener en mars et avril ?
Donc nous avons fait grève 17 jours par rapport à la convention du mois de janvier qui était sortie. Donc la convention qui parlait de travail de nuit, 3 jours de fonctionnement, nous avons nos 3 jours. Déjà, on n'avait rien, on n'a pas de prime, on n'avait rien, et ils voulaient nous enlever nos 3 jours. Donc, nous avons tout, on a appelé toutes les filles, on a fait tous les secteurs. Nous avons 60 secteurs sur Grenoble, juste sur Grenoble. Hein, je ne vous parle pas de la mûre, de tout ça, en dehors de Grenoble aussi. Donc, on a fait des remises de feuilles, des droits d'expression, et on a été voir les filles. Donc les filles étaient d'accord tous pour s'arrêter. Donc on n'avait rien gagné parce que les filles, elles hésitaient, c'était des femmes seules, avec des enfants, qui s'en sortaient déjà pas. Donc elles sont venues. Les aides-soignantes, tutelles, on a appelé tous les services. Et nous avons fait le premier jour la grève. Nous sommes trouvés devant la DPA, donc notre patron. Qui s'en foutaient, vraiment, qui rigolaient de nous en disant « Mais attends, elles sont folles, on leur donnera jamais rien. » Tous les jours, elles passaient à côté de nous en nous regardant, mais vraiment, on était découragés. Deux jours après, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'est réunis, on a dit, on va rentrer dans le conseiller général. Nous sommes rentrés au conseiller général. Le conseiller général nous dit, on lâchera rien. On a été dans les mairies. On a eu de la chance qu'il y avait, comment ça s'appelle, les élections. Donc on a fait toutes les trucs des élections, on a rencontré tout le monde. Donc rien. Nous sommes rentrés au conseiller général et nous avons bloqué Madame Pérez, notre conseiller général, et nous l'avons bloqué. Nous avons dit, maintenant, si on ne gagne rien aujourd'hui, vous n'y irez ni pisser, ni manger, et vous ne passerez pas qu'avec nous, parce que nous, on restera là. Donc elle ne croyait pas, on est resté. Et à 6 heures du soir, elle a pris une décision, elle a appelé, elle a dit, bon, on fait une réunion d'urgence, et on a gagné nos 3 jours. Sauf que notre 3 jours, pénalité, les 3 jours, ça voulait dire aussi que toutes les associations avaient ces 3 jours de l'Isère. Donc je trouve que c'est vraiment beau. Et si vous aurez vu ces filles, comme elles pleuraient d'avoir gagné ça, que des femmes, nous avons aussi, il faut s'adresser, il faut qu'on a eu l'aide de la bourse, la CGT, on a été bien accompagnés. Mais cette bataille, on l'a gagnée.
Elles ont gagné donc ces 3 jours s'appellent bien des jours de pénibilité, ce qui est une reconnaissance de la pénibilité. Et ce que je peux compléter en disant que ces 3 jours, elles ne l'ont pas gagné que pour elles, mais elles l'ont gagné pour les 14 autres associations du département. Sauf que maintenant, l'accord n'est pas signé parce qu'on veut leur faire assortir les 3 jours de pénibilité à la présence.
Et ça, nous sommes contre. Parce que déjà, quand on est malade, c'est décompté dans les congés payés. En plus, ils voudraient nous mettre la double peine, c'est-à-dire les congés payés de sucré plus les 3 jours d'assiduité.
Merci. Donc voilà, Sylvie et Séverine, qui viennent de l'entreprise des Trois Suisses, qui ont été une lutte remarquable depuis le mois de janvier. Elles ont appris, alors qu'elles étaient dispersées, éparpillées dans différentes villes de France, dans 35 villes je crois, qui ont appris par un communiqué le 21 janvier dernier que leur boutique fermait, et qui ont décidé de ne pas plier, de relever la tête et de défendre leur dignité, de dénoncer les licenciements boursiers pratiqués par l'entreprise des Trois Suisses, patronnée par le groupe Otto, et qui depuis n'arrêtent plus de se battre et de se présenter, de montrer leur t-shirt rose dans toutes les manifestations, et surtout autour de la question des licenciements boursiers. Donc je vous passe la parole pour expliquer un petit peu votre lutte.
Donc bonjour à tous. Dans sa communication, Trois Suisses France chouchoute la cliente et honore la femme. Dans les faits, elle a plutôt tendance à maîtriser tous ses salariés. Donc effectivement, on était 35 boutiques éparpillées partout, appréciées par les clientes, car elles pouvaient passer commandes, reposer des colis, discuter directement. Il y avait un vrai lien social. Et un jour, le groupe Otto, à laquelle on appartient, très gros groupe, hein, ultra bénéficiaire, se porte très très bien, décide de fermer. Elles se sont dit, 135 femmes éparpillées partout en France, elles n'ont pas faire de mouvement, on va toutes les envoyer au Pôle emploi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il a suffi d'un tract envoyé dans un espace pour que le lien se fait, et de là il est licenciel. Et pour vous parler de la création licencielle, je vais vous passer Séverine.
Donc nous, on a été licenciés en début d'année, donc 31 janvier. Ça a duré un an. On a été traités de façon lamentable par la direction, c'est-à-dire que nous, on a appris notre licenciement par téléphone. On s'est battu avec Sylvie, avec des référés, et on a été donc licenciés. On a décidé de se battre, puisque effectivement, on est licenciés économiquement alors que le groupe fait des millions de bénéfices. On a décidé de créer l'association pour justement garder le contact avec toutes celles, parce qu'on est dans 35 villes différentes. Mais on a décidé de garder la tête haute, on a décidé de se battre, on a créé l'association pour rester en contact et continuer à faire des actions, et pour pouvoir aller aussi plus loin, c'est-à-dire pour pouvoir se battre contre les licenciements faits dans des entreprises ou dans des groupes qui font des millions de bénéfices. On a décidé de ne pas se laisser faire par la direction. Donc effectivement, on est des femmes, on ne connaît rien à la lutte, on n'était pas syndiquées, mais on a décidé de se battre et on a fait un petit bout de chemin. Maintenant, on est une vingtaine d'entreprises qui nous suivent. On se bat, on a une proposition de loi, donc nous aussi on a connu les CRS, mais on lâchera rien. C'est une loi qui est dont François Hollande avait parlé pendant les primaires, il en a parlé sur le parking de Goudière et d'Efralib en disant qu'il ferait quelque chose. Maintenant il est en place, on voit que ça n'avance pas. Donc on continue à se battre, mais on se rend compte que là vous avez des exemples de femmes qui se battent. Il faut arrêter de courber les chines, il faut être solidaire, il faut que toutes les entreprises se mettent ensemble, il faut créer un rapport de force comme Anna le disait, puisqu'on se rend compte que de toute façon il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les choses. Et là c'est notre combat, donc nous on se bat, voilà, nous on se bat. On a donc le 29 novembre, pour nous salariés 3 Suisses, c'est une date importante puisque c'est le jugement de fond au tribunal de Roubaix. On est tous dans la même galère, on est là pour se battre pour l'emploi, donc même si on est des femmes, même si c'est compliqué, la lutte est difficile, on peut se rendre compte que le rapport de force, c'est nous qui pouvons le faire. On est des milliers, des centaines de milliers, et que si on est tous ensemble et qu'on va dans la rue et qu'on oblige cette loi qui peut être mise en place demain, on sauvera des centaines de milliers d'emplois. Voilà notre combat.
Donc, Laurence Cohen, je suis sénatrice du groupe communiste républicain citoyen Front de Gauche et je voulais juste donner une information très importante par rapport à la loi. Parce que là, il y a besoin effectivement que cette loi passe. C'est un projet de loi que nous avons présenté au Sénat qui venait de basculer à gauche, pas encore quand il y avait un changement de président de la République, mais le Sénat était à gauche et donc on pouvait adopter cette loi contre les licenciements boursiers. Donc on a présenté la loi et elle a été retoquée à 4 voix près du groupe des radicaux de gauche. Donc c'est très important de continuer à mener ce combat et à faire monter la pression parce qu'effectivement on peut faire le lien entre ce qui se passe dans les entreprises, dans la rue et le travail des parlementaires. Et avec les engagements qui ont été pris aujourd'hui à gauche, il n'y a aucune raison que cette proposition de loi donc des sénateurs et sénatrices du Front de Gauche ne passe pas, mais je crois qu'il faut qu'on s'en mêle et ce qu'ont fait nos amis licenciés est une preuve et un point d'appui supplémentaire et ça doit marcher dans les deux sens.
Donc on s'achemine vers la fin de notre après-midi. Je vais passer la parole à Maya Surdutz, qui est porte-parole du CNDF, le collectif national droit des femmes.
Oui, bonsoir. Écoutez, moi je dois dire qu'il faut essayer de voir dans quelle situation on est. D'abord, je rends hommage aux copines qui font le boulot qu'elles font et je nous rends hommage à nous d'être à l'initiative même de cette campagne sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Moi je tiens à dire que dans le contexte actuel, je comprends l'optimisme de Laurence Cohen, mais franchement, je dois dire, personnellement, je n'engage pas l'entièreté du collectif droit des femmes, je ne me permettrai pas, mais je suis personnellement très préoccupé par la situation. On se rend compte à quel point, effectivement, Sarkozy, on n'en voulait plus, on n'en a jamais voulu d'ailleurs, ni avant, ni pendant, ni après, mais le problème est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que va faire, à quoi sont prêts les socialistes. Je dois dire que il y a eu des mauvais signaux qui ont été donnés quand même, il faut le dire. Aller à 11 ministres le jour effectivement à l'université d'été du MEDEF, ce n'est pas un très bon signal. De canner devant les pigeons, ce n'est pas un très bon signal. Ceci étant, nous ne pouvons faire confiance qu'à nos luttes. À nos luttes. Et plus que jamais, je dois dire qu'effectivement, il faut dire que notre amie, nous sommes ensemble dans cette galère de cette campagne, que Anna insistait sur le fait qu'effectivement le SMIC, c'est les résultats de ce qui a vraiment été obtenu au SMIC, c'est du 0,0 quelque chose. Vous le savez. Bon, pour nous, ce qui est important, ce qui est décisif, c'est effectivement le SMIC. Ce qui est décisif, c'est le temps plein pour celles qui le désirent. Nous ne sommes pas là pour imposer ou dire à la place des femmes qui luttent comment il faut lutter et ce qu'elles doivent demander. Mais pour celles qui le désirent, il faut qu'elles puissent retourner au temps plein, effectivement, parce que ce travail à temps partiel est en réalité une aubaine pour le patronat. C'est une aubaine pour le patronat. On sait que deux temps partiels, ça rapporte beaucoup plus en termes de rendement, d'efficacité, plus qu'un temps plein. Vous le savez très bien, c'est pas cher payé quand on voit la hauteur effectivement des salaires. C'est une misère. Et on profite de quoi? Ils profitent principalement du fait que la plupart des emplois occupés par les femmes, que ce soit l'aide à la personne, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans la santé, etc., ils considèrent que c'est naturel, les femmes sont nées avec. Elles savent, mais elles n'ont pas de connaissances. On ne reconnaît pas, et c'est extrêmement important de reconnaître effectivement que c'est un savoir-faire et c'est un métier, et ça s'acquiert. Ce sont des vrais métiers et pas des faux métiers, et qui doivent être payés comme tels. Alors effectivement, nous avons toute une ségrégation de l'emploi, des emplois féminisés qui sont mal payés parce que pas reconnus, et je dois dire qu'il est extrêmement important le travail qui est développé par des copines comme Rachel Silvera et l'autre copine qui bosse avec elle, à l'initiative, c'est inspiré de ce qui a été fait au Québec, où ils sont très en avance sur nous, sur le fait qu'il faut connaître la valeur, effectivement, du travail réalisé. Ça, c'est décisif. Ce qui est décisif, c'est de considérer, il faut cesser aussi de donner des exonérations de charges pour les bas salaires. Ce que nous avions obtenu en son temps, ça a été pris en compte par Madame Aubry, où effectivement dans la loi Aubry 2, il y avait la suppression effectivement des exonérations de charges pour le temps partiel. Et ça ne suffit pas, il le faut également pour les bas salaires. Comme il faut également que soit reconnu, et reconnu plus que jamais, effectivement, ce travail. Le travail réel, les connaissances réelles, etc. Et je dois rendre hommage de ce point de vue-là à la lutte menée par les infirmières en 88, qui, elles, avaient fait une grève qui avait duré sur, justement, où elles demandent, où elles exigeaient que soit reconnu leur savoir-faire, leur connaissance, leur compétence. Ça, c'est un des gros problèmes, des problèmes majeurs que nous avons, nous les femmes, que beaucoup des emplois qu'elles réalisent ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont. Il faut dire également que ce qui nous distingue des propositions qui sont faites actuellement par le gouvernement, apparemment, ils disent qu'ils veulent faire quelque chose sur l'égalité professionnelle pour les boîtes de plus de 300. Nous, ici, ce dont il est question, c'est pas ça. C'est l'exploitation maximale, c'est dans les petites boîtes. C'est dans les boîtes où il y a moins de 50 personnes, où il n'y a pas de délégation syndicale. Et vous le savez très bien, où les travailleurs, travailleuses ont du mal à être défendus, à se défendre, parce qu'ils n'ont pas les instruments non plus. D'autre part, il faut également qu'il y ait accès à une formation continue, qui permette effectivement de sortir de la non-reconnaissance de la compétence, etc. C'est parmi les revendications que nous mettons en avant. Je voudrais enfin dire, pour terminer, que nous sommes contre la ségrégation de l'emploi. Nous sommes pour la mixité de l'emploi. Et on sortirait de la galère, effectivement, d'avoir des emplois moins reconnus si nous avons une véritable mixité de l'emploi. Il faut également que l'image des femmes dans la société change, la représentation des femmes, tout cela se tient. Et ça, nous ferons en sorte que le 25 novembre, cette année en particulier, on mettra le paquet pour dire qu'il y a des choses qui sont inadmissibles pour une société qui se veut démocratique. Et nous disons, et je termine vraiment là-dessus, sur la santé. Ce n'est pas possible d'assister à une dégradation des conditions de travail, non seulement de travail, les hôpitaux disparaissent. Le problème, il faut effectivement, nous disons, que la santé, c'est un acquis. La France est un des meilleurs pays reconnus pour tel, pour son système de santé. Et ils sont aujourd'hui en train de détruire tout ça. Et c'est ensemble que nous devons lutter. Et c'est seulement par la lutte que nous obtenons les choses. Et nous faisons, par exemple, du 29 novembre, de la mobilisation à Roubaix au Prud'homme, où effectivement le jugement sur le fond sera rendu pour les licenciés comme une de nos dates de mobilisation. Et il faut considérer, et nous donnerons aussi, s'il y a d'autres informations précises sur les autres dates, je crois qu'il y avait le 22 novembre, non, il n'y avait pas une autre date.
1er décembre,
c'est tout. Merci.
D'accord. Le mot de la fin, on applaudit Maya.
D'entendre le meeting qui s'est déroulé le samedi 20 octobre 2012 à la Bourse du Travail de Saint-Denis sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, avec une exigence commune quand même, hein, c'est la revalorisation des métiers et l'augmentation des salaires dans tous les secteurs professionnels féminisés. Voilà. On va reprendre cette émission, vous êtes bien toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi à C1920. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs à précaires. Nous reprenons cette émission avec, bien sûr, ce qui nous a beaucoup fait rire ces derniers temps, c'est que les 98 patrons des plus grandes sociétés françaises ont fait donc une sorte de tribune écrite sur au JDD, hein, pour exiger que le gouvernement fasse baisser les charges des entreprises pour relancer la croissance. Donc, on va dire quelques mots là-dessus avant de repasser sur Michel Husson tout à l'heure. Alors effectivement, les pigeons, a pris beaucoup le goût, hein, les pigeons, ce sont donc des patrons français, des 98 plus grandes sociétés françaises qui n'ont pas l'intermédiaire de Facebook et puis des trucs sociaux là sur Internet. ont écrit un grand courrier à François Hollande pour lui demander de baisser les charges des entreprises afin de d'abord de recréer de l'emploi, évidemment, bien sûr, mais surtout de leur permettre de mettre de l'argent à gauche. Finalement, c'est un peu ça, puisque le but de baisser des charges, c'est de ne plus payer les cotisations sociales et patronales. Et en même temps, donc, le salarié ne pourra plus être, ne pourra plus avoir ses retraites, la sécurité sociale, etc., etc.
Juste pour faire un correctif, hein, il ne s'agit pas des pigeons, parce que les pigeons, c'était les jeunes entrepreneurs.
Les jeunes entrepreneurs, bien sûr.
Il s'agit des 98 patrons des, côté, ce qui a suivi les pigeons. Côté en bourse, qui ont suivi les pigeons.
Les pigeons, absolument.
Et autre chose, c'est qu'en principe, alors je ne sais pas si ça fait partie de leur lettre ou pas, mais en principe, il est quand même prévu qu'il y ait un basculement des cotisations sociales. Hein, on parle de charges, mais c'est des cotisations, sociales, donc salariales et patronales, par une compensation de la TVA.
De 19,6 à 21. Voilà. Pour cent, ouais, effectivement.
Bon, ce qui, enfin, ce que je veux dire, après, c'est tout un débat, hein, sur, finalement, on ampute encore le salaire des employés ou des ouvriers, une fois de plus, on a envie de dire, par rapport à toutes les réformes qui ont été faites, mais, avec cette obligation, malgré tout, parce que les caisses sociales sont quand même en déficit, de devoir les compenser d'une manière ou d'une autre, hein. Je veux dire.
Oui, mais en même temps, c'est tricher un petit peu, parce que qui est responsable de la crise, c'est quand même pas le salarié, c'est quand même la banque. Donc, la banque fait la crise, et c'est le salarié qui paye la crise de la banque. Donc, c'est pas normal, tu vois, quelque part. Et le patron, là, effectivement, les patrons demandent une baisse des charges, alors qu'effectivement, ils ont passé leur temps à licencier, à se délocaliser, à faire des profits. Et là, ils remettent le couvercle en redemandant à François Hollande, effectivement, de faire une baisse de charges, quand je parle de charges, c'est cotisations sociales et patronales, de 30 milliards d'euros. Ouais. C'est quand même une somme énorme.
Oui, puis surtout, hein, ce qu'il faut ajouter, parce que, en fait, on a une opération de com', en fait, hein, du lobbying patronal, parce que cette lettre arrive juste au moment où M. Gallois, donc qui est ancien patron de ADS, ancien patron de la SNCF, va rendre son rapport, donc le 5 novembre. En fait, son rapport est déjà prêt depuis un petit moment, mais il peut pas François Hollande lui a donné la consigne de ne pas le diffuser tant que le débat à l'Assemblée nationale sur le budget n'était pas terminé. C'est pas clos, parce que sinon ça posait trop de problèmes avec la majorité parlementaire, donc socialiste et verte. Et donc du coup, ça fait parfaitement écho, parce que finalement, grosso modo, ils sont à peu près sur la même ligne. Donc c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le rapport Gallois, c'est effectivement donc une baisse de 30 milliards des charges, financée notamment par une hausse de la CSG et surtout... Donc, comme tu l'as dit, une hausse de la TVA, et surtout une réduction des dépenses publiques qui va bien au-delà des 10 milliards annoncés pour l'année 2013. Donc, Madame Parisot, elle a ses chiffres, et je crois, si tu vas me confirmer, hein, mais je crois qu'elle est quand même plus proche, elle, de 30 milliards de coupes dans la dépense publique. Hein. Alors, on sait très bien qu'en fait, à chaque fois qu'on coupe, qu'on taille dans les dépenses publiques, on le paye en chômage. Puisque finalement, c'est une façon de retirer du pouvoir d'achat à des salariés, tout simplement. C'est-à-dire où l'État ne va plus embaucher des gens, l'État ne va plus passer des commandes. Donc, c'est si vous ajoutez ça donc à la hausse des impôts et à la hausse de TVA compris, en fait, on va détruire encore une fois la consommation intérieure et pour le coup, on risque de se retrouver avec des taux de chômage qui sont quand même, qui risquent d'être vraiment considérables. Donc en Espagne, on est, je crois, entre 25, bientôt 28. Hein. Y a des économistes qui disaient que finalement, on était sur une logique de 30% de chômeurs en Espagne, si on continuait sur cette politique-là. Et en France, on risque de passer les 11% en décembre. Hein. Là, ça fait guère de doute, et l'année 2013 va vraiment pas être bonne. Toutes ces mesures-là, enfin, il faut dire aux auditeurs qui sont fort nombreux et qui nous écoutent, vous allez les payer en taux de chômage supplémentaire et dans des proportions inédites jusqu'à présent. Ce sera bien pire que les 12% de l'année 94.
Oui, tu as bien raison, parce que là, dans l'appel qu'ils font, effectivement, ils considèrent que les marges de nos entreprises sont historiquement basses. Hein, donc effectivement, elles sont basses, mais elles sont encore énormes par rapport à, bon, on peut dire ça comme ça aussi.
Non, mais surtout, c'est quelle entreprise?
Oui, quelle entreprise? Le CAC 40, je veux dire, les 40 entreprises les plus fortunées de France.
Oui, mais ils parlent au nom d'autres aussi,
oui,
j'imagine.
De l'ensemble de
voilà.
Des,
et, oui. Voilà. Alors, alléger les charges. Alors, bon, en plus, c'est vrai que c'est un débat qui est un peu spécieux, mais on en parlera peut-être avec la note qu'a publié Michel Husson. C'est que, finalement, on parle de baisser les charges à niveau général, quoi. Alors, pour toutes les entreprises, voilà. Bon. Et alors, ça appelle quand même deux commentaires, juste factuels. C'est qu'en fait, François Hollande va faire les réformes que Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire.
Exactement.
Hein. Et ben oui, parce que Nicolas Sarkozy, dans sa campagne électorale, il avait promis de baisser les charges. Sauf que Nicolas Sarkozy, il avait une réforme des retraites à faire, enfin, il voulait faire, donc c'est-à-dire qu'il amputait les droits et qu'il a fait.
Ouais, ouais.
Mais sauf que, évidemment, baisser les charges comme ça, purement et simplement, ça voulait dire plonger encore le régime de sécurité sociale, vieillesse et maladie, encore dans le rouge. Et donc, il fallait que ce soit de toute façon compensé par un autre impôt. Et comme notre ami Nicolas Sarkozy, qui si on admire et qu'on respecte, je plaisante, mais est un grand keynésien en réalité, puisque c'est le champion du monde du creusement des déficits. Bon, je plaisante, hein, parce que Jacques Chirac a fait pas mal aussi dans les années 2000. Mais enfin bon, Sarkozy est quand même très fort là-dessus. Il voulait absolument pas augmenter les impôts. Et on pouvait le comprendre, hein, c'est-à-dire que s'il croyait réellement à une reprise de la croissance, il fallait surtout pas qu'il augmente les impôts sur la consommation. Donc, et François Hollande, et donc il faut être juste, hein, je veux dire les patrons ils sont durs avec François Hollande, parce que oui. François Hollande finalement il va se retrouver à faire les deux, à augmenter les impôts de façon générale, augmenter les impôts sur la consommation, baisser les charges des patrons, amputer la dépense publique. Donc en fait on a un super Sarkozy en fait, hein, quelque
c'est
part. Et donc on voit les socialistes de reniement en reniement être obligés d'aller au bout de la logique.
Néolibérale,
ouais, ou européenne aussi, européenne, parce ouais. qu'on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être que l'Europe n'est pas étrangère à la crise, enfin elle n'est pas du tout étrangère en ce qui concerne la crise de l'euro, bien sûr, mais même la dépression à l'intérieur de la zone euro, elle est quand même directement issue des plans d'austérité au niveau européen. Et donc voilà, donc je pense que dans François Hollande est à du mérite, parce que c'est un vrai gouvernement.
Quelque part, c'est un peu quelque part, c'est un peu une demande de réduction du coût du travail, finalement, cette histoire.
Alors ouais, mais alors le problème, la réduction du coût du travail, c'est toujours la même histoire. On va réduire d'un côté, donc les entreprises, mais de toute façon, on va faire reporter l'effort sur les consommateurs. Donc si je rappelle quand même que les salaires baissent depuis un certain nombre d'années. Les salaires réels baissent.
Depuis 15 voilà. ans, 20 ans.
Ouais. Les salaires baissent. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez personne pour acheter vos produits, si vous n'avez pas de demande solvable, bon, c'est la quadrature du cercle. Alors, ce que disent... et là, on peut peut-être passer au débat sur le fameux choc de compétitivité. Finalement, ce que disent des économistes hétérodoxes qui sont un peu critiques, c'est que cette idée de choc de compétitivité, c'est une façon de se masquer un certain nombre de problèmes et par contre de faire passer des mesures impopulaires. Donc quand je dis masquer un certain nombre de problèmes, il y en a deux, c'est qu'on parle de choc de compétitivité à un niveau pour toutes les entreprises. Or, l'argument c'est la France perd des parts de marché depuis 2002, je crois. Elle perd des parts de marché vis-à-vis de l'Europe. Sauf que, évidemment, toutes les entreprises ne sont pas concernées. En réalité, il faut savoir que l'industrie, c'est 75%, c'est elle qui exporte à 75% ses produits. D'accord ? Le reste, c'est 25%. Donc, il y a des entreprises qui sont soumises à cette exigence de compétitivité au niveau européen et au niveau international. Sachant que le commerce au niveau européen reste plus important que en tout cas en France, que le commerce au niveau mondial. Hein. Et même pour l'Allemagne, je crois que c'est à 50%. Hein. Et donc, ce qui signifie que toutes les entreprises ne devraient pas être concernées par ce choc de compétitivité. Et ce qui signifie une deuxième chose, c'est que le choc de compétitivité, ça rime en fait à essayer de gagner des parts de marché au niveau européen, et donc à rentrer dans une logique concurrentielle au niveau européen.
Voilà. Et non faussée, comme on l'a dit.
Voilà, concurrence non faussée, sachant qu'en fait, comme on l'a déjà dit mille fois à cette émission, le salaire finit par être la seule variable d'ajustement, parce qu'on n'a plus d'autres mécanismes pour corriger la compétition intra-européenne.
Alors, dans une économie libérale.
Dans cette économie libérale, bien entendu.
Alors j'ai quand même, juste pour affiner un petit peu, j'ai quand même, ça vient quand même, je cite mes sources parce qu'on m'a dit que c'était mes sources et je le ferai donc. C'est donc le monde diplomatique de ce mois-ci, encore. Il est dit, bon, je vais le lire, je vais essayer de le lire correctement. Il est dit, en cumul, depuis 1982, la déformation du partage de la richesse a fait basculer l'équivalent de 1100 milliards d'euros de salaire brut et 400 milliards d'euros de cotisations patronales des salaires vers les profits. Le sacrifice aurait pu trouver une justification s'il avait alimenté l'investissement, gage supposé de création d'emplois. Mais ces 1500 milliards d'euros ont surtout nourri les dividendes, revenus nets distribués aux actionnaires, et l'épargne des entreprises. C'est QFD, finalement. On est toujours dans la même logique, hein, finalement. Il dit également, car il faut verser des dividendes aux actionnaires ou rembourser les intérêts du crédit. Ce gel des salaires au profit des actionnaires et des banquiers oblige dans un deuxième temps les ménages à recourir au crédit à la consommation pour subvenir à leurs besoins. Effectivement, les crédits ont explosé depuis une quinzaine d'années, quoi.
Bien sûr.
Tu voulais intervenir, Christophe, sur le...
Non, mais ça rappelle une remarque assez dure, mais totalement lucide, de Claude Goasguen, député UMP, qui disait...
Je vois que t'as tes sources.
Au grand jury RTL, je crois, il y a quelques mois, faut arrêter de se moquer du monde, c'est les classes moyennes et les classes populaires qui vont payer...
Et qui payent déjà
le retour à la croissance au profit des classes supérieures et des plus aisées de la société. Augmenter le point de TVA, c'est ça.
C'est bon.
Donc, voilà la réalité. Ça se réalise. C'est une politique ultralibérale. Deuxième point, Ludovic, tu disais qu'il y a le problème de la solvabilité liée au salaire et à la consommation intérieure. C'est fondamental. 75% des biens consommables qui sont produits en France sont consommés donc en France. Et si on fait effectivement ce choc de compétitivité avec 30 milliards d'exonérations de charges sociales, c'est les salariés qui vont payer et on va se retrouver en récession. Et donc l'année suivante, on va nous dire encore un effort et le profit sera quoi ? Sera pour l'actionnaire et le dividende. C'est une évidence. Et c'est là où on arrive à, je dirais, une situation de fond, c'est-à-dire la non-régulation de l'économie financière qui est à l'origine de ce mécanisme-là. Mais pour moi, il y aura une deuxième conséquence parce que derrière cette grande tribune des patrons, la réalité, c'est ce que disait Madame celle qui a fait la stratégie du pire, je ne sais plus le
Naomi Klein.
Capitalisme du désastre. L'idée, à ton avis, qu'il y a derrière ce choc de compétitivité, c'est quoi ?
Ben, je ne sais pas, tu vas me le dire.
Moi, je vais te le dire.
Vas-y.
C'est que faut vider absolument par tous les moyens possibles les caisses de retraite pour arriver à la retraite par capitalisation et foutre en l'air le système de protection sociale. Voilà l'idée. L'attaque frontale, c'est récupérer cette rente de protection de l'État au profit des intérêts privés, des banques, des assurances, etc. C'est évident.
Oui, et puis c'est une privatisation massive. Hein, parce
et
que
c'est une
si
privatisation massive, etc.
Si on coupe dans les dépenses publiques...
Voilà. Non mais c'est évident. Il y a des gens qui ont... je ne sais pas ce que va faire effectivement François Hollande, mais là il est devant un tournant économique historique. Quoi. Soit il...
Oui, alors ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait Jacques Sapir, donc, qui est l'économiste, en fait l'avait dit, mais le gouvernement de Hollande aura peut-être 2 ans avant de faire un choix entre ses engagements européens. C'est-à-dire aller au bout de la logique européenne, c'est-à-dire effectivement une augmentation du taux de chômage, une récession absolue, ou un autre choix qui pourrait consister à sortir de l'Europe. Alors, je voudrais juste passer sur la note de Michel Husson.
J'aimerais quand même dire que il y a quand même quelque chose de drôle ou dramatique. Hein, ça dépend comment on prend la chose. Les patrons, donc les pigeons, également les autres patrons du CAC 40, des 98 patrons des entreprises françaises les plus fortunées, font une menace quand même dans la lettre. Hein. Ils disent que s'ils n'obtiennent pas satisfaction, 15% des patrons en question prendront l'exil. Donc en fait, ils sont en train de dire à Monsieur Hollande que il a intérêt à faire ce qu'il leur demande parce que sinon ils partiront. Mais pas qu'ils partent, voilà, tout simplement qu'ils partent et puis nous, on sera sans, quoi.
Comme le disait Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous, voilà.
Donc ce que je vous propose maintenant, avant de passer au prochain sujet, c'est d'écouter une petite chanson et on reprendra la parole. Merci.
Ha ha ha! dans mon sous-sol crasse. Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire patronne.
Et oui, c'était Juliette, l'éternel féminin. Donc ce soir, c'est donc une émission pour les femmes faite par des hommes. Voilà, ça ne s'invente pas. Vous êtes toujours sur Mode d'emploi, Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires sur Fréquence Paris 106.3 FM. Nous parlions des patrons qui sont des humanistes et on se demandait, on se posait la question en micro, s'ils tendaient pas à vouloir faire comme l'Allemagne, une sorte de sécu-flexibilité ou flexibilité-sécurité ou Ludo.
À titre personnel, j'aurais vraiment pas pris l'Allemagne comme exemple.
Oui, moi non plus, mais bon.
Non, autant le dire tout de suite, l'Allemagne a effectivement un taux de chômage historiquement bas, mais une pauvreté jamais égalée, historique aussi, hein, enfin depuis 45 en tout cas. Voilà. Donc effectivement, la flexi-sécurité, elle c'est peut-être plus le Pays-Bas. Ben pourquoi ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette histoire de choc de compétitivité, ce qui y a toujours derrière, ça c'est le volet, on en a parlé, c'est la flexibilité du marché du travail. Et donc on sent, hein, le patron est très très ouais. très fort sur cette question. Et justement, il y a actuellement, et dans le un silence général, une conférence sur le marché du travail en fait. Hein. C'est et entre les syndicats et les patronats. Voilà, donc et qui a lieu avant la remise le 5 novembre du rapport de Gallois. Or, effectivement, puisqu'il y a une abaissement de charges, etc., les syndicats sont debout sur la sécurisation professionnelle. Mais une fois de plus, on voit le patronat traîner des pieds, c'est ce que dit François Chérec de la CFDT, et refuser finalement à chaque fois d'envisager des mesures de protection supplémentaires pour les salariés, en fait. Hein. Je sais pas, par exemple, portabilité des droits, ou donc la portabilité des droits, c'est par exemple que vous conservez vos droits à la formation en changeant de boulot. Et donc c'est quand même très très significatif, c'est qu'en fait la sécurisation des parcours professionnels, le patronat, c'est, enfin le MEDEF en tout cas, qui négocie, c'est pas son problème. Honnêtement, il faut le dire, hein, il considère qu'il a vraiment d'autres chats à fouetter plutôt que d'aller accorder des droits supplémentaires aux salariés dont il est en train d'essayer de baisser les charges patronales. Donc rendez-vous le dialogue social, donc rendez-vous à la prochaine négociation qui aura lieu très bientôt, une fois que le rapport de Monsieur Gallois sera sorti. Et puis on verra ce qui va en sortir. Et puis effectivement, s'il y a une avancée encore sur la sécurisation des parcours professionnels, moi je sais pas, je vous paye y aller, je vous le dis, je vous paye le champagne à cette antenne.
Juste une petite annonce quand même avant, parce que là on va arrêter l'émission. L'émission se termine pour la rediffusion, mais vous restez avec nous après parce que c'est pas terminé, puisque l'émission qui nous suit n'est pas là, donc on a un peu de temps pour parler d'autres sujets. Donc là, pour finir pour la rediffusion, juste une petite annonce quand même. C'est le 1er décembre 2012, on va converger pour contre le chômage et la précarité. C'est une manifestation donc qui sera à 14h place Stalingrad le 1er décembre 2012. Il faut absolument y aller parce que les chômeurs aussi sont des travailleurs. Même s'ils n'ont pas d'emploi. Voilà. Cette émission se termine pour la rediffusion. Je embrasse les filles et un peu mon garçon. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.
Bonsoir.